Et alors qu'il est 7h moins le quart en temps universel, tout de suite c'est la revue de presse africaine. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour André-Anne, bonjour à tous.
À la une, bouleversement politique au Mali.
Hier, le Conseil des ministres maliens a tranché dans le vif, s'exclame Sahel Tribune à Bamako. Les lois fondatrices du pluralisme politique sont désormais lettres mortes. Abrogation pure et simple de la charte des partis politiques de 2005 et du statut de l'opposition de 2015. Deux textes clés balayés par un projet de loi présenté par le ministre délégué aux réformes politiques dans le sillage des assises nationales de la refondation. En apparence, il s'agit d'une réforme de structure. En réalité, s'exclame Sahel Tribune, c'est une reconfiguration historique du jeu démocratique malien.
En effet, précise le média malien, les forces vives, comme on les appelle, ont exprimé une volonté claire.
Dissoudre pour reconstruire, interdire le nomadisme politique, supprimer le financement public et auditer les pratiques passées. Plus audacieuse encore est la suppression du statut du chef de file de l'opposition, héritage de la démocratie pluraliste malienne, un signe pour certains d'un retour à un monocentrisme assumé du pouvoir dans un contexte régional dominé par l'AES, l'Alliance des États du Sahel, dont les modèles politiques s'éloignent des schémas occidentaux. Dans les recommandations issues des concertations figure aussi une proposition qui a fait déjà grincer des dents, relève encore Sahel Tribune, la révision de la charte de la transition pour installer le général Assimi Goïta à la tête de l'État pour un mandat de 5 ans renouvelable, une formule qui rappelle celle adoptée par ses homologues du Niger et du Burkina Faso, l'armée au pouvoir, mais sous la forme d'une présidence élective consolidée durable.
Autre média bamakois, l'alternance s'indigne.
La dissolution des partis politiques vient boucler la boucle de la série de violations de la loi fondamentale en République du Mali, dénonce l'alternance. Pour rappel, la constitution de 2023 a mis des verrous à trois principes. La forme républicaine et laïque de l'État, le nombre de mandats du président de la République et le multipartisme. Comment, malgré l'inscription de ces principes intangibles dans le marbre de la constitution, les autorités malienne pourrait-elle dissoudre les partis politiques? Si la décision était vraiment appliquée, elle n'aurait d'autre qualificatif qu'un abus de pouvoir, une violation flagrante de la Constitution, un précédent très gravissime qui ferait passer notre pays pour une république bananière.
Au Mali, le général Assimi Goïta veut jouer les prolongations sans aucune opposition, constate pour sa part le Monde africain.
5 ans après avoir pris le pouvoir par la force, lors d'un coup d'État en août 2020, le général est en passe de s'adjuger un nouveau bail de 5 ans, donc à la tête du Mali, mais relève le journal. Là où cette prolongation est passée sans encombre, à Ouagadougou puis à Niamey, elle provoque déjà des remous à Bamako. Longtemps muets face aux militaires au pouvoir, les principaux partis politiques du pays entendent désormais leur barrer la route. Plusieurs leaders politiques évoquent la possibilité d'appeler à des manifestations, lesquelles seraient inédites mais aussi sûrement interdites. Les prochains jours vont être décisifs, affirme Yaya Sangaré, secrétaire général de l'Alliance pour la démocratie au Mali. On sent un réveil, les espoirs et l'enthousiasme observés au début de la transition ont été déçus. La junte n'est plus populaire. Les Maliens ont compris que ces gens veulent confisquer le pouvoir et les priver de leur liberté, affirme-t-il encore. Mais nous ne l'accepterons pas. Et puis, souligne encore le Monde Afrique, reste à savoir comment les autres officiers qui composent la junte au pouvoir réagiront à une éventuelle prolongation de 5 ans du mandat du général Goïta à la tête de l'État. Ces derniers mois, en effet, plusieurs sources militaires et sécuritaires évoquaient une méfiance croissante entre le chef de la junte et le général Sadio Camara, son puissant ministre de la Défense.
Enfin, le Djeli en Guinée a fait les comptes.
Le général Goïta, qui est en place depuis 2020, est donc invité par les conclusions des récentes concertations à s'offrir un nouveau bail de 5 ans, lui-même renouvelable une fois, autrement dit 5 plus 5 plus 5 égale 15 ans, cadeau. Curieusement, la persistance de l'insécurité est le prétexte qu'on met en avant. Cette même insécurité qui avait en partie justifié le coup d'État d'août 2020, mais le plus affligeant, pointe encore le Djeli, c'est le fait que les populations maliennes ne comprennent rien au piège qui se referme ainsi sur elles.
Merci Frédéric Couteau, vous revenez dans une petite demi-heure pour la revue de presse internationale et vous nous parlez de l'Ukraine qui accepte de partager ses richesses minières avec les États-Unis.
Oui, et nous le verrons, les journaux s'interrogent, est-ce que cet accord va peser sur un règlement du conflit entre l'Ukraine et la Russie.
On en parle tout à l'heure, 9h15 à Paris et aussi dans le journal de Marion Cazeneuve, le Mali et cette question ce matin, ce 1er mai, journée internationale des droits des travailleurs. Dans quelle mesure les syndicats maliens vont-ils s'emparer de la situation politique du pays et se montrer solidaires des partis politiques alors que, on le disait, le Conseil des ministres a validé hier soir leur dissolution. Analyse à suivre tout de suite avec notre invité Afrique et Christophe Boisbouvier, notre invité qui est le sociologue malien Mohamed Amara.
Mohamed Amara, bonjour. Bonjour.
La concertation nationale qui propose de dissoudre tous les partis politiques et qui recommande que le général Assimi Goïta soit nommé président pour 5 ans, est-ce que c'est un tournant?
Bien sûr que c'est un tournant, c'est une nouvelle épreuve pour le Mali de voir que après 30 ans de démocratie, que une autorité de transition décide de dissoudre les partis politiques d'une part et d'autre part, de proposer de nommer le président de transition en tant que président de la République. C'est une première dans l'histoire du Mali contemporain.
Et vous pensez que beaucoup de Maliens vont faire le parallèle entre aujourd'hui et l'époque du régime militaire du général Moussa Traoré?
Je pense que le parallèle est quasiment fait du fait de tous les mouvements de résistance qui commencent à se mettre en branle, qui dénoncent ces recommandations, et depuis l'ensemble des partis politiques. J'espère qu'ils vont se mobiliser parce que s'ils ne se mobilisent pas d'une façon ou d'une autre, ils participent à leur propre enterrement, ce qui n'est pas bon, et pour la démocratie malienne, et pour l'héritage de ce qui a été légué par les Modibo Keïta, par les Alpha Omar Konaré, et j'en passe. Donc, j'espère qu'ils vont se mobiliser pour dénoncer cette confiscation du pouvoir. Et donc, c'est tout l'enjeu des mobilisations à venir, s'il y en a, ou des stratégies de rejet de cette dissolution des partis politiques qui sont inscrits dans la Constitution, même la dernière Constitution qui a été votée en 2023, où on a dit que le multipartisme, comme les mandats du président, ne sont pas modifiables, ne sont pas révisables.
Alors aujourd'hui, c'est le 1er mai, donc le jour des syndicats dans le monde entier. Au Mali, on sait qu'ils ont joué un grand rôle, notamment lors de la révolution de 1991, qui a mis fin au régime militaire de Moussa Traoré. Mais à présent, est-ce qu'ils ont encore une influence sur le cours politique des choses au Mali?
Évidemment, les syndicats sont un rempart important contre les dérives autoritaires d'un régime, qu'il s'agit d'un régime militaire ou démocratique. Et vous avez parfaitement raison que dans les années 90, l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali, a été un des acteurs principaux de la lutte contre les dérives du régime dictatorial de Moussa Traoré. Et ce rôle-là, cette place-là, il me semble que les syndicats l'ont toujours. La seule différence entre les années 90 et aujourd'hui, c'est que le responsable principal de la centrale syndicale, l'UNTM, est aujourd'hui le président du Conseil économique et social, une des institutions importantes de la République du Mali. Et ça, c'est une faiblesse, une fragilité aujourd'hui du monde syndical au Mali.
Donc la double casquette de Yacouba Katilé, hein, qui est à la fois le secrétaire général du syndicat majoritaire UNTM et le président du Conseil économique, social et culturel, cela brouille son image et affaiblit peut-être le poids de l'UNTM face au pouvoir politique?
Cela brouille son image et impacte effectivement la capacité de mobilisation du monde syndical pour tout mouvement de résistance, malheureusement. Toujours est-il que je crois à la force du monde syndical parce que rappelez-vous, par exemple, que le SINADBEF, que le syndicat national des banques, assurances, microfinances, etc., a réussi à obtenir la libération des deux de ses membres de la banque Ecobank. C'était à la mi-avril. Et si demain, il y a une convergence de lutte, ça ne peut venir que des liens entre le monde syndical et du monde politique, comme ce qu'on a connu dans les années 90.
En Pologne, il y a 45 ans, c'est le syndicat Solidarność de Lech Walesa qui a lancé le mouvement de protestation contre le régime du général Jaruzelski. Dans le Mali d'aujourd'hui, est-ce que l'UNTM de Yacouba Katilé pourrait jouer un rôle similaire ou non?
Tout dépendra de comment les rapports de force évolueront. Effectivement, il y a le syndicat que vous rappelez de Lech Walesa en Pologne dans les années 80. Mais rappelez-vous déjà qu'en 90, l'UNTM à la Bourse du Travail était le syndicat en première loge qui mobilisait, et je pense que cela est possible aujourd'hui encore une fois au Mali s'il y a un vrai conflit sociopolitique qui s'ouvre entre le pouvoir actuel et les mouvements syndicaux, politiques et associatifs.
Mohamed Amara, merci.
Le sociologue malien Mohamed Amara, auteur du livre « Marchand d'angoisse, le Mali tel qu'il est et tel qu'il pourrait être » publié aux éditions Granvaux. Cet entretien est à retrouver en ligne.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Le 1er mai, synonyme de mobilisation en France, notamment pour cette journée. La CGT a recensé quelques 260 rassemblements dans tout le pays et des revendications très larges qui vont des salaires à la réforme des retraites ou encore contre la trumpisation du monde. Et concernant ce 1er mai, journée internationale des droits des travailleurs et des travailleuses, nous serons au Japon dans les prochaines minutes avec notre correspondant qui nous parlera des revendications des salariés japonais. À la une, cet accord entre Kiev et Washington, l'idée, eh bien, c'est que les États-Unis puissent avoir accès aux ressources ukrainiennes, minerais, pétrole, gaz, en échange de la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine. La quantité de richesses minières présentes en Ukraine reste assez floue. Kiev dit en revanche garder l'entière souveraineté sur ses ressources. Nos précisions sur cet accord sont à retrouver dans un article qui est à la une de notre site internet. Ça se passe sur le www.rfi.fr. La Russie, de son côté, a frappé aujourd'hui, jeudi, à l'aide d'un drone, une zone résidentielle à Odessa, dans le sud de l'Ukraine. 2 personnes mortes, 5 autres blessés, a annoncé le gouverneur local. Des explosions ont aussi été entendues à Soumy, dans l'est ukrainien. En RDC, le ministre de la Justice demande au Sénat la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila, l'ancien président congolais et sénateur à vie. Les autorités de Kinshasa l'accusent d'avoir pris part à la création de l'Alliance Fleuve Congo, branche politique du M23, soutenue par le Rwanda et qui contrôle une partie du sud et du nord Kivu dans l'est. Les proches de Joseph Kabila parlent d'un acharnement. L'Union africaine lève les sanctions contre le Gabon. Elles avaient été prises après le putsch qui a renversé Ali Bongo en août 2023. L'institution panafricaine estime que la transition a été globalement réussie. Le président élu, Brice Oligui Nguema, doit prêter serment samedi. Jérusalem menacée par des feux de forêt, des incendies qui ravagent en ce moment l'ouest de la ville. Plusieurs localités ont dû être évacuées. Le ministre de la Défense israélien a qualifié la situation d'urgence nationale. Et puis en Corée du Sud, le parquet a annoncé ce jeudi l'inculpation de l'ancien président du pays, Yoon Seok-yeol, inculpé pour abus de pouvoir après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale dans le pays. Le 1er mai, journée internationale pour les droits des travailleurs et des travailleuses. On en parle avec vous, Maman.
Oui, aujourd'hui, c'est la fête du travail, mais comme lors de toutes les fêtes du travail, personne n'ira travailler, à part les malchanceux comme nous, obligés de causer dans le poste radio. C'est la fête du travail, mais tout le monde est joyeusement resté à la maison, grasse matinée, sport, visite de la famille, ou alors ça traîne à la maison, histoire de bien narguer ce jeudi 1er mai, jour de milieu de semaine qu'on passe habituellement au travail. C'est la fête du travail aujourd'hui, et certaines défilent dans les rues de Gondwana City, notre belle capitale, avec des banderoles qui souhaitent bonne fête du travail à tous les travailleurs et patati et patata. Aujourd'hui, c'est la fête du travail. Tu dois célébrer le travail, mon ami, même si tu es au chômage. Pourquoi ? Ben, au moins par superstition, mon ami. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es au chômage que ça implique forcément que l'année prochaine, lors de la prochaine fête du travail, tu seras encore au chômage. On sait tous que le travail est quelqu'un de très susceptible. Il peut très mal prendre le fait que tu ne lui souhaites pas bonne fête aujourd'hui et donc il va te bouder, te faire la gueule comme ta femme quand tu oublies sa date d'anniversaire. C'est ça que tu veux ? Non ? Alors bouge-toi ! Même si tu es au chômage, fais comme tous ceux qui ont du travail. Célèbre la fête du travail, mon ami, c'est-à-dire fais la grasse matinée comme tout le monde, bois ton café dans la cour au vu et au su de tout le monde comme si c'était dimanche, traîne à la maison en survêt, sors acheter du pain à 11h en sandales en gardant tes lunettes de soleil pour bien montrer que tu viens de te réveiller. Ah, c'est ce que tu fais d'habitude puisque tu es au chômage depuis longtemps. Mais c'est pas grave, mon ami, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu as le droit de faire ça. Il faut te fondre dans la masse des travailleurs le jour de la fête du travail. Aujourd'hui, t'as pas le droit de faire semblant de sortir chercher du travail. Au contraire, si tu fais ça, ben tout le monde saura que tu es au chômage. On ne cherche pas du travail le jour de la fête du travail. Aujourd'hui, tu verras le ministre du Travail à la télé, célébrer le travail comme si c'était sa fête à lui aussi. Alors qu'il ne fait rien pour te procurer du travail. Il va parler, raconter que le travail c'est ceci, c'est cela, que c'est la priorité de son gouvernement. Mais toi, tu ne vois rien venir. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on va voir que tu fais semblant de chercher du travail. Je plaisantais, hein, faut pas t'énerver. Je sais que tu as cherché le travail partout avec la torche, mais t'as l'impression qu'il joue à cache-cache avec toi dans les rues de Gondwana City, notre belle belle capitale, le travail. Tu as l'impression qu'il te fuit, le travail. Tu sais quoi? Il va peut-être montrer sa tête aujourd'hui, le travail, puisque c'est sa fête. Alors, dès qu'on le verra, on appellera le ministre du Travail et on les enfermera tous les deux dans un salon pour qu'ils se parlent enfin et trouvent une solution pour toi qui cherches du travail. Bonne fête du travail et à lundi.
À lundi, Maman, la journée internationale pour les droits des travailleurs et des travailleuses, un jour de mobilisation dans le monde. On en parle tout de suite dans le journal.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Nous vous proposons un voyage au Groenland qui, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, est au centre des attentions. Pour ses minerais critiques, pour les hydrocarbures de l'Arctique, mais ce territoire danois, et qui entend bien le rester, vit surtout de la pêche et développe désormais son tourisme.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain. Avec le podcast La Relève du Rire, plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.